marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous?
Mais que sont devenus les Français de Pondichéry?
Pour moi, c'était vraiment, l'Inde est un pays étranger, et c'était une fenêtre de l'histoire française, Pondichéry, c'est tout. Pour moi, c'était pas l'outre-mer. Moi, j'ai jamais considéré ça comme ça. On est un peu des extraterrestres, quelque part. Et on a toujours vécu dans un milieu français, dans un pays étranger. C'est ça le paradoxe.
On peut regarder Pondichéry comme une fenêtre qui s'est refermée. Elle témoignait d'un vieux songe colonial, la constitution d'un empire français sur le sous-continent. Songe rompu par les Anglais, qui consentirent tout de même, par deux fois, en 1763 et en 1815, à nous laisser Pondichéry et quatre autres comptoirs, souvenez-vous, Chandernagor, Mahé, Karaikal, Yanaon. Il serait aussi légitime de considérer Pondichéry comme un simple intermède, au total assez bref, dans l'histoire de l'Inde. Les Indiens n'ont pas tort quand ils disent que les colonies françaises n'étaient pas des modèles de prospérité. Elles ressemblaient davantage à des tissus d'arlequins déchirés par les contradictions. Après l'indépendance de l'Inde, la France accepta la cession de ses enclaves, moins difficilement que le Portugal, qui de son côté conservait Goa. En 1954, le drapeau indien flotte sur Pondichéry. C'est la même année que la guerre d'Indochine est perdue. La dernière justification en date de la présence française à Pondichéry tenait d'ailleurs à son rôle de relais vers l'Indochine. Enfin, en 1962, le traité de cession avec l'Inde est signé. Il prévoit le maintien d'une présence française et le droit pour les Pondichériens d'opter pour la nationalité française. Un peu moins de 7% des ayants droit vont le faire. C'est une minorité qui aurait pu peut-être être plus large. Il y avait tant de risques à faire l'option. Depuis, grâce à différents canaux, de nouveaux Français ont été inscrits sur les registres, tandis que le lycée français scolarise une majorité de Français et une minorité de citoyens indiens qui souhaitent que leurs enfants soient francophones. D'ailleurs, avoir des papiers français, ça ne résout pas tout. Les franco-pondichériens savent d'expérience qu'en disposer ne change pas nécessairement le regard que la société porte sur eux en France. Et pour beaucoup, ils sont très attachés à l'Inde, que parfois ils n'ont pas quitté, où ils reviennent souvent, par exemple, à l'âge de la retraite. Ceux qui croient à l'unicité de l'identité sont loin du compte.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Alors, cette émission a été préparée, je l'ai dit, à Bruno Duvic, par Aïden Savarimoutou, qu'on entendra tout à l'heure, mais qui, pour l'instant, se tient dans le rôle discret de celui qui accueille, c'est une de ses fonctions, à la maison de Radio France, puisqu'il se tient au centre du hall. Et, Kamala Marius, vous êtes celle qui a été choisie par tout le PAC qui a préparé cette émission. Oh, on va voir que votre histoire n'est pas simple. Déjà le domicile en France. Vous enseignez à Bordeaux, vous êtes là-bas grande spécialiste de l'Inde. Vous avez publié un livre sur l'Inde fragile chez Bréal.
Ouais.
Et vous habitez Strasbourg, tiens. Bon, enfin, vous avez connu beaucoup de domiciles pendant votre expérience de diaspora. Je me suis laissé dire que vous préparez un livre et qu'il est presque prêt sur la diaspora de Pondichéry.
Alors, on prépare. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Aïden. Ravi d'être là pour parler de cette diaspora si méconnue, j'ai envie de dire. Donc oui, on prépare un livre avec Arundhati Virmani de l'EHSS de Marseille sur cette diaspora pondichérienne.
Ça va commencer par une supplique, cette émission. Vous allez demander un éditeur.
Voilà, exactement.
Il va falloir que vous soyez clair dans cette histoire confuse, pleine de bruit et de remords. On va pas commencer au début des comptoirs de l'Inde. Ça date de quand d'ailleurs, ces comptoirs de l'Inde?
Alors, ces comptoirs de l'Inde datent de 1600 et quelques, je dirais. Hein, donc, c'est très ancien. Mais c'est, comme vous l'avez dit en introduction, hein, ça a été français un peu plus tardivement. Et effectivement, ces fameux comptoirs ont compté beaucoup, hein, en fait, au départ, dans cette histoire coloniale. Et puis par la suite, on sait parce très bien, ce serait une autre émission.
On disait que l'Union française ne tenait que si tout, toutes les enclaves de la France étaient fédérées les unes avec les autres. On va commencer notre histoire sous la Troisième République en 1881-1882, quand a été offerte au sujet des colonies, c'était une colonie au sujet, la possibilité de renoncer au statut indien, il n'y avait pas de nationalité indienne. Cette renonciation allait avoir des avantages, mais consistait, votre famille l'a vécu d'expérience, à abandonner la langue, la coutume, les traditions.
Oui, absolument, c'est très évocateur, renonciation au statut personnel. Donc ça voulait bien dire qu'on renonçait à ses coutumes, ses us et coutumes, et qu'on devenait français à part entière. À tel point que mon ancêtre, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de mon père, qui est arrivé en Indochine parmi les 17 premiers qui sont partis en 1865, lui, par exemple, a décidé de renoncer justement à son statut personnel. Il s'appelait Doré-Samy, il s'appelait François Doré-Samy, catholique donc, et a décidé de s'appeler Marius, d'où mon nom Marius.
Mais un officier d'état civil aurait pu choisir aussi bien Brutus, par exemple.
Oui, alors vous avez des Brutus.
Il y a même des Lebruns.
Oui, il y a des Lebruns, des Brutus, des Leblanc, des Danton, des Robespierre.
Ah, attendez, il y a une justification du côté de l'administration française. Nous libérons les parias.
Alors, oui et non. Parce que finalement, au départ, les premiers qui sont partis en Indochine, comme je vous ai dit, les 17 premiers qui sont partis, dont mon ancêtre, n'étaient pas des parias. Ils étaient, on dirait aujourd'hui, des castes intermédiaires, des Vallaja, des Modelia, qui étaient donc des propriétaires agricoles, mais qui ont bénéficié de l'école du collège royal, qui date de 1826, hein, quand même, un collège royal français.
Qui, sous la Troisième République, voilà. S'appelait le collège colonial.
Exactement.
Alors et vous dites, ils vont en Indochine, là.
L'école de droit.
Ils vont en Indochine parce que relais important pour l'Indochine, Pondichéry. Plus oui. Tard les avions, mais à l'époque qui nous intéresse, les bateaux qui font escale. Et qu'est-ce qu'ils font en Indochine, vos ancêtres?
En fait, on avait besoin d'administrateurs coloniaux, de fonctionnaires, parce que l'Indochine, c'était loin. La Cochinchine, notamment, qui est devenue une colonie française, n'avait pas assez de fonctionnaires. Donc, on a pensé à ces fameux pondichériens.
Enfin, certains aussi, peut-être, étaient commerçants, mais dans votre monde, catholique et sérieux, pas musulmans et commerçants, on était dans la fonction publique, comme dans la famille d'Aïden Savary Mutu, qui a interrogé ici son oncle sur les renonçants.
Dans la communauté franco-pondichérienne, je pense qu'il y a plusieurs communautés. Et la nôtre, précisément, fait partie de ces familles de renonçants. La raison, c'était contre l'injustice des castes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont renoncé au statut indien. Et ils sont partis vers le statut français. Et la condition, c'était qu'il fallait être instruit. Et donc ils avaient un certain niveau d'instruction, mais mon grand-père notamment, et puis après mon père, c'est ce qui leur a permis d'émigrer en Indochine, qui était aussi une colonie française, comme Pondichéry à l'époque. Donc il y avait des échanges entre colonies françaises, et les Pondichériens systématiquement partaient en Indochine, au Vietnam.
Alors en Indochine, au Vietnam, pour une partie de votre famille, il y aura l'Afrique aussi?
Oui, alors c'est du côté maternel, hein, ce sont mon arrière-grand-père et puis mon grand-père, par exemple, qui est parti dès 1932 au Gabon, à Libreville, comme magistrat. Puisque, comme je l'ai évoqué, il y avait une école de droit aussi à Pondichéry. Hein. C'était quand même assez unique dans les colonies françaises.
Le temps avance, il y a de premières alertes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Pondichériens se rallient, ainsi que les autres comptoirs, à la France libre, assez vite, dès septembre 40. Vous me direz que la pression anglaise était quand même assez forte dans la région. Les Pondichériens, qui sont fonctionnaires, par exemple, en Indochine, ont eu davantage de mérite à être gaullistes.
Oui, en effet, puisqu'on sait très bien qu'en Indochine, ils étaient plutôt pro-vichistes.
Et alors, dans votre famille?
Et dans ma famille, je pense à mon grand-père paternel, justement, qui n'a jamais voulu dénoncer ses camarades, par exemple, et a subi la torture, par exemple, de l'eau, par les Japonais.
Ça donne des brevets de nationalité supplémentaires, ça. Parce que jusqu'ici, les pontichériens qui étaient fonctionnaires outre-mer, mais oui. À partir de 1946, le passage au gouvernement du général de Gaulle, ils peuvent exercer
oui,
en France
déjà,
métropolitaine.
De Gaulle avait décidé en 1946 que tous les natifs des comptoirs français avaient tous la nationalité française. Donc, à partir de là, ils ont pu effectivement partir, venir en France, faire leurs études, devenir fonctionnaires. Mais beaucoup ont préféré finalement aller plutôt à l'île de la Réunion, par exemple, où on retrouve plusieurs familles de pondichériens.
Alors, le moment là est favorable pour les franco-pondichériens, sauf que l'Inde est indépendante en 1947 et que la France va perdre d'un coup la même année, 1954, après Dien Bien Phu, accord de Genève, après la pression très forte du gouvernement Nehru et l'Indochine et les comptoirs français qui vont être cédés.
Nous voudrions aujourd'hui consacrer la plus grande partie de notre émission à deux événements qui ont frappé d'une façon assez douloureuse toutes nos consciences françaises, des événements inéluctables. Le premier, c'est d'abord l'entrée des troupes du Viet Minh dans Hanoï, en exécution des accords de Genève. Le deuxième, l'accord franco-indien du 13 octobre sur les comptoirs français de l'Inde. Le transfert de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon aura vraisemblablement lieu à la fin du mois. On sait à quelle longue campagne de propagande et d'étranglement économique menée par l'Inde a précédé le nouvel accord et l'a rendu nécessaire. La fermeture policière et douanière des frontières de ces multiples petites enclaves françaises, l'interdiction du passage de la main-d'œuvre en direction des villes et des usines, l'arrêt de tout approvisionnement et, ce qui est plus grave, de tout ravitaillement, des manifestations anti-françaises organisées, telle a été malheureusement depuis un an l'atmosphère de nos comptoirs. L'accord du 13 mars prévoit, heureusement, autant que faire se peut, le maintien de la présence de la civilisation française dans ces comptoirs.
La présence de la civilisation française, dit Pierre Ichac, on reviendra aux institutions françaises qui demeurent dans les comptoirs et notamment à Pondichéry. Il va y avoir une période de transition assez longue après que le drapeau français est abaissé en 1954 et qu'arrive le pavillon indien. Et c'est seulement en 1962 qu'on va vraiment se mettre d'accord. C'est l'année où l'Algérie devient indépendante aussi. Écoutez cette lecture-là. Kamala Marius, je pense que c'est une voix que vous allez reconnaître, vous nous direz laquelle.
Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon. Mise en application le 16 août 1962. Article 1er. La France cède à l'Inde en pleine souveraineté le territoire des établissements de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon. Article 4. Les nationaux français nés sur le territoire des établissements et qui y seront domiciliés à la date de l'entrée en vigueur du traité de cession, deviendront, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l'Union indienne. Article 5. Les personnes visées à l'article précédent pourront, par déclaration écrite faite dans les 6 mois qui suivront l'entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui auront exercé cette option seront réputées n'avoir jamais acquis la nationalité indienne. L'option du mari sera sans effet sur la nationalité de la femme.
Alors on retient la leçon. Ceux qui ont depuis peu, pour tous les pondichériens, la nationalité, vous évoquiez Kamala Marius, la décision du général de Gaulle, vont devoir la renouveler par une option qui va devoir être déclarée avec toute une documentation à apporter devant les officiers d'état civil. On laisse en suspens ce qui va se passer à partir de ce moment-là, à l'instant, pour évoquer la voix qu'on vient d'entendre. C'est...
Je pense que c'est celle de ma sœur, oui, ouais. Charmila Marius.
Mais alors, elle était toute jeune, là, 91.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, votre sœur?
Ma sœur, elle est agrégée de lettres classiques et elle enseigne...
Parce que vous êtes des as des concours, vous, les franco-pondichériens.
Oui, hein. C'est ce que dit mon père, toujours, oui. On aime bien passer les concours de la fonction publique, oui.
சரணடைந்தேன் கண்ணோமா நில்னை
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Que sont devenus les Français de Pondichéry et des comptoirs? Kamala Marius est avec nous. Vous préparez un livre sur la diaspora, vous allez peut-être nous donner un chiffre. L'état dans lequel est Pondichéry et où se déroulent les élections indiennes qui durent depuis le 11 avril et qui se terminent seulement cette semaine, c'est 75 millions d'habitants. L'agglomération de Pondichéry, en tout cas, c'est 1 million. Les Français de Pondichéry à Pondichéry, les Français de Pondichéry ailleurs, vous diriez quoi?
Quelques dizaines de milliers. On a du mal à estimer, puisqu'ils sont Français depuis si longtemps. Et comme en France, on ne recense pas les origines des personnes, donc on ne sait pas, on évalue. Alors, Natacha Perraudeau disait autour de 20 000, d'autres disent 40 000.
En tout cas, vous êtes deux là, parce qu'il est temps que je présente Aïden Savary-Moutou. Bonjour.
Bonjour.
J'ai déjà besoin de votre secours pour prononcer le nom de l'interprète qu'on vient d'entendre il y a un instant.
Alors, il s'appelle Ilaya Raja. Le morceau s'appelle Ninai Sarana Daiten. C'est ce qu'on a entendu pendant le morceau. C'est un album de musique Bharati.
Vous parlez tamoul, vous?
Non.
Ah.
Pur produit de l'assimilation. Je ne parle pas tamoul.
Pur produit de l'assimilation. Bah oui, vous êtes le digne fils de votre grand-père. Parlez-nous un peu de Léonce, parce que Léonce était un super as du concours aussi, comme les membres de la famille de Kamala Marius.
Exactement. Il est venu faire ses études de droit à la fin des années 30 à Aix-en-Provence, et puis il est parti à Pondichéry, en Indochine, pour se marier avec une femme qui faisait partie de la famille Duclos, qui était née à Saïgon, en Indochine, et qui faisait partie d'une famille de franco-pondichériens.
Alors il y a des commerçants de Pondichéry en Indochine, mais vous, comme pour la famille Marius, sont plutôt des gens de la fonction publique. Il avait accédé à quel grade, Léonce?
Il était, quand il est parti avec sa famille, quand il est rentré à Pondichéry, il était procureur de la République.
Procureur de la République. C'est sans doute quelqu'un qui va faire l'option. Alors, rappelons, possibilité de l'option à partir de 1962, un peu moins de 7% des ayants droit seulement choisissent l'option. C'est le cas de votre père?
Oui, c'est le cas de mon père, parce qu'il était né à Pondichéry. Donc tous ceux qui étaient nés à Pondichéry devaient opter. Alors vous avez dit tout à l'heure des risques. Je crois que les Pondichériens n'étaient pas au courant de ce texte qui pouvait, en fait, ils pouvaient opter à ce moment. Puisque les optants pouvaient ne pas être des renonçants. Beaucoup d'optants.
Les renonçants de 1880.
Oui, ils n'étaient pas obligés. Donc c'est pour ça que
beaucoup n'étaient pas au courant. Ils pouvaient craindre pour leur propriété aussi, parce que les textes rassurants de l'âne ne sont venus qu'une fois la période de l'option close. Oui. Alors votre père, il est chercheur à l'Orstom et il vous emmène où?
Alors il était chercheur à l'Orstom, aujourd'hui IRD. On a été en Guyane, au Gabon, au Sénégal, au Tchad. Donc moi, je ne suis arrivée que à mes 18 ans en France pour faire mes études.
Et vous avez passé votre
bac où? J'ai passé mon bac à Dakar.
Ah, alors voilà les conséquences de l'option. Ça peut vous amener à l'autre bout du monde, dans des territoires francophones et ayant dépendu de la France. Alors Léonce, le grand-père, évoqué par Jean-Pierre, lui, qui était procureur de la République, issu d'une famille qui avait renoncé au statut indien et pris la nationalité française depuis la fin du 19e, enfin, tout était mûr pour qu'ils choisissent l'option.
En 62, les Français donc proposent l'option et patatras, mon père choisit de rester indien. Donc ça, c'est le paradoxe. Alors que c'était quelqu'un de très français. En 62, pour diverses raisons, il ne fait pas l'option, il préfère rester indien. L'une des raisons, ce que je sais, c'est que certaines familles jalouses, on va dire, l'avaient découragé de partir en France parce que mon père avait déjà 7 enfants, il fallait partir tout seul, s'installer en France, partir vers l'inconnu. Et puis lui-même, je pense qu'il avait une certaine peur, il ne voulait pas partir en France d'abord tout seul parce qu'il fallait partir tout seul d'abord dans un premier temps, s'installer, si on avait opté. Donc ça, pour ces raisons-là, il est resté indien. Et donc, bah, tout ce faste qu'il avait, tous ses moyens, le milieu qu'il fréquentait, tout est tombé à l'eau du jour au lendemain. Après 1962, il est devenu indien. Donc, il bénéficiait plus du salaire français. Pondichéry étant devenu une ville indienne, de l'Union indienne, ce qu'on appelait à l'époque l'Union indienne. Il a eu une petite retraite de complètement dérisoire par rapport à ce qu'il aurait pu gagner s'il avait opté pour la nationalité française. Les enfants, par contre, ils l'avaient quand même, ils nous avaient mis dans un système scolaire français.
Mais Haydn, toute la famille s'interroge sur le grand-père, à la fois digne et indigne. Il a eu peur, de quoi? Parce qu'il allait devoir rejoindre la France en 62. Les gens qui optaient pensaient qu'ils allaient tous devoir rejoindre la France.
Ce que j'entends dans les récits familiaux, parce que j'ai posé la question, ce que j'ai entendu pendant longtemps, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il avait peur d'être reclassé.
Vous voulez dire déclassé, en fait?
Oui, c'est ça.
Reclassé à un poste inférieur.
Exactement. Mmh. Et voilà, de partir de procureur de la République, d'avoir un capital social, culturel, d'être bien vu, en fait, dans la société dans laquelle il vivait. Il avait vécu comme ça en Indochine, il vivait comme ça à Pondichéry. Finalement, il ne voulait pas, il avait peur de l'inconnu aussi.
Oui, voilà. C'est vrai que beaucoup avaient peur d'arriver en France. Il vivait tellement bien en Indochine, c'était la perle de l'Extrême-Orient. Moi, j'ai les récits de mes grands-mères, de mes grands-parents, mais qui parlaient de Saigon comme une ville extraordinaire, hein, où on y vivait bien, on avait des appartements, etc., luxueux, et des belles maisons, et arrivé à Pondichéry, même déjà d'être venu à Pondichéry après Dien Bien Phu, ça a été un choc, parce qu'on se retrouvait dans des maisons avec la vache dehors, etc., ça n'avait rien à voir avec l'Indochine. Donc il y avait aussi cette peur, c'est pour ça que beaucoup après ont choisi de partir à La Réunion, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ou en Afrique, où on avait quand même des positions beaucoup plus intéressantes.
Comme celle de votre père.
Voilà. Comme celle de mon père.
Le grand-oncle dans votre famille, lui, est déterminé à ne pas opter.
Ouais, alors du côté de ma mère, il y a un grand-oncle maternel qui a refusé donc d'opter. Mais lui, c'était un choix. Ça avait été un freedom fighter, c'est-à-dire il a lutté pour l'indépendance. Il avait un haut poste dans l'administration indienne. Donc lui, après, il était l'équivalent, on appelait un collector. Il a eu un haut poste. Ses enfants avaient des avantages aussi, puisqu'il y a eu beaucoup d'avantages aussi sociaux pour ces freedom fighters après, qui eux avait décidé de ne pas devenir français.
On n'a pas parlé de la manière dont s'accommodaient les mariages, dont ils s'accommodent peut-être encore. Vous êtes aussi une géographe féministe du genre, et vous avez écrit chez Kartala un livre sur ce thème, le genre en Inde. Les Français de Pondichéry se marient souvent avec des Françaises ou inversement?
Toujours, il y a beaucoup de mariages.
Avec des Français de métropole, oui, je veux dire. Je dirais par exemple pour vous un bon Breton,
oui,
que vous avez fini par épouser.
Oui, que j'ai fini par épouser.
Oui, mais dans un premier temps.
Dans un premier temps, effectivement, j'ai épousé un pondichérien, comme moi, ouais, exactement, avec une famille assez traditionnelle, justement, un mariage traditionnel.
C'est ce qui se produit le plus souvent.
Et c'est ce qui se produit le plus souvent, sauf que lors de mes derniers entretiens, j'ai remarqué que beaucoup de femmes, en fait, divorçaient aujourd'hui. Et beaucoup de divorces, ou en tout cas, elles n'osaient pas dire qu'elles voulaient divorcer, parce qu'il y a quand même une pression sociale et familiale extrêmement forte encore en France aussi.
On a entendu tout à l'heure Léonce recommander à ses enfants de continuer à suivre le système français d'enseignement. Vous avez été élève l'un et l'autre au lycée de Pondichéry? Non, pas Haydn, qui est né en France à la maternité Rothschild, il ne cesse de me le dire. Vous avez fait vos études?
Oui, non, moi je suis né à Paris dans le 12e.
Oui, mais vous avez fait vos études au lycée franco?
Je suis passée de temps en temps parce que mon père, à l'Orstom, pouvait aller tous les 20 mois, ouais, 4 à 5 mois.
Mais vous n'avez pas
à
fréquenté le lycée franco?
Si, de temps en temps. Parce que,
comment ça, de temps en temps?
Bah oui, parce qu'on bougeait tellement quand on était jeune, avec mon père, un vrai fonctionnaire, ouais, qui devait. Bon, vous allez demain au Gabon, après-demain, etc. Donc, on passait des fois 6 mois, 1 an. Et c'est comme ça que j'ai passé plusieurs séjours à Pondichéry. Et j'y suis encore beaucoup puisque mes parents sont rentrés à la retraite depuis 1990.
Quand vous allez enquêter, vous confiez vos enfants
voilà, vous avez tout compris.
À vos parents de Pondichéry. Au lycée français, un petit millier d'élèves, il y a des élèves français, et puis il y a des élèves de famille tamoule dont les parents tiennent, ils sont pourtant citoyens indiens, à ce que leur fille, par exemple, voici Tabi, apprenne le français. Et Tabi, elle est même devenue étudiante à l'EHESS à Paris, grâce à un système de bourse de la francophonie.
Moi, je suis la bonne indienne, je travaille bien, je maîtrise le français très bien. Et juste pour dire une anecdote, et que, tu vois, enfin, une fois, j'étais dans un groupe Facebook franco-pondichérien, et en fait, je voulais faire une fête pour... Ils voulaient chanter la Marseillaise, il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge et tout. Et moi, je disais que je me sentais pas à l'aise avec ça. Et ils me traitaient de tous les noms en mode que j'étais, que je leur dois, je dois, enfin, déjà, ils savaient même pas que si j'étais en tamoul ou franco-pondichérienne, etc., que je dois à la France de pouvoir vivre ici, que j'ai des allocations et que je profite de tous les droits sociaux que la France me donne pour venir crêcher sur ce pays. En fait, ils étaient plus nationalistes que les Français eux-mêmes. Je ne sais pas, enfin, c'est pourquoi cette envie de surprouver que t'es plus français que français, en fait.
Il y a donc à Eden des franco-pondichériens plus nationalistes que les Français, ce qui n'est pas exactement votre cas, ce que j'ai deviné, non?
Ça vous juge.
Eh bien, alors, il vous arrive de fréquenter les tamouls de Paris, alors ceux qui sont passés par le lycée français, mais vous ne parlez pas tamoul, mais vous allez à Eden, je vois, dans le quartier de la Chapelle, acheter des choses pour manger.
Ça m'arrive peu, mais ça m'arrive. Je fréquentais les amis de Jean-Pierre, qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission, au début des années 90. Après, c'est ce travail en fait de recherche qui fait que je rencontre des personnes, pas seulement franco-pondichériennes, mais comme on dit en Angleterre, South Asian, donc sud-asiatique. J'ai créé un collectif de personnes queer sud-asiatiques qui se retrouvent régulièrement pour faire de la recherche, oui, du travail artistique.
C'est quand même des réseaux virtuels, mais le réseau de l'immigration, parlons juste d'un mot, des très nombreux Sri Lankais qui viennent du nord du Sri Lanka, ou des Tamouls qui viennent de régions voisines de Pondichéry, du sous-continent indien. Et du côté des Sri Lankais, il y a une immigration qui est la conséquence des guerres civiles et des difficultés politiques au Sri Lanka. On dit que les commerçants musulmans pondichériens qui avaient été en Indochine et qui sont revenus en France ont joué un rôle dans l'embauche de ces Sri Lankais.
Oui, moi je suis un peu surprise, hein, parce que j'ai l'impression justement que les pondichériens n'aiment pas qu'on dise que ils ressemblent aux tamouls sri lankais. Il y a un discours même très
donc
très
fort.
Donc
c'est un chapitre à ajouter au livre vous n'avez pas encore achevé et qui a peut-être un éditeur après cette émission préparée donc par Aïden Savarimoutou avec Ilinka Negulescu et à la réalisation Audrey Ripouille, accompagné de Loïc Frapsos. Chez vous, Mathieu Vidard, dans La Tête au Carré.
Pourquoi la Terre est ronde, Jean? Bonne question. Ces temps troublés où le platisme a le vent en poupe.